Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Son dernier film, Eyes Wide Shut, allait sortir 2 ans après la diffusion de l'émission qui vient, et quelques mois après sa mort. Quel film de Kubrick préférez-vous ? Chacun donne une réponse à cette question, réponse qui peut varier selon les époques. Lolita, 2001, l'Odyssée de l'espace, Spartacus, Shining, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Docteur Folamour. Les cinéphiles citeront aussi Les Sentiers de la Gloire, L'Ultime Razzia, Le Baiser du Tueur. Peu importe le film préféré. Dans sa catégorie, les fans de Stanley Kubrick considèrent qu'il est le meilleur, qu'il a épuisé toutes les possibilités d'un genre. Mardi du cinéma, Stanley Kubrick, première diffusion sur France Culture, le 10 juin 1997.
Mardi du cinéma, Stanley Kubrick. Par Pascal Lismonde. Réalisation, Josette Collin. Full Metal Jacket, sa dernière production, remonte à plus de 10 ans. Alors, on espérait le 13e film de Kubrick pour les 50 ans du Festival de Cannes. Un film avec Tom Cruise, qui joue le rôle d'un psychanalyste sur le thème des relations de couple. Imaginez l'événement. Le mariage entre une vedette telle que Tom Cruise et un monstre sacré tel que Kubrick, réputé pour pousser les acteurs dans leur dernier retranchement, cela promet un mélange plutôt détonnant. De plus, avec leur rareté, chaque film de Kubrick apparaît en soi comme un événement. Ce perfectionniste, qui aura 70 ans en 1998, a tourné 12 longs métrages en 40 ans de production. On ne peut pas dire qu'il sature les écrans. On penserait même avoir affaire plutôt à un Léonard de Vinci de la pellicule. D'autant plus que chacun de ses films fait date. Qui a vu Lolita, Docteur Folamour, 2001 Odyssée de l'espace, Barry Lyndon ou Shining en reste marqué à vie. Cette empreinte est d'autant plus forte que le cinéaste ne fait pas dans la bluette. Le monde dont il nous montre tous les excès est régi par la violence ou par la folie. L'amour, la tendresse, connaît pas. On pourrait appliquer à Kubrick le commentaire d'Adorno sur Alban Berg. Le désespoir de son imagination a dépassé la négativité de son temps. Mais Kubrick est aussi un alchimiste, capable de transformer tout ce plomb en or. D'autant plus que depuis son camp retranché, à Londres, il semble avoir bâti un empire. Michel Simon.
Kubrick, c'est un peu l'opposé de Spielberg, par exemple. Spielberg, c'est quelqu'un qui a effectivement établi un empire, c'est-à-dire une compagnie de production avec des produits dérivés, des poupées gonflables, des sucres d'orge, des bouquins, qui a produit d'autres films de jeunes cinéastes, qui est devenu une puissance considérable à Hollywood. Et au fond, on a l'impression que peut-être son activité de producteur est pour lui de brasseur d'argent est peut-être aussi important, sinon plus important, que ses films eux-mêmes. Sans parler de George Lucas, qui lui alors est l'exemple même de celui qui s'est arrêté de faire des films depuis 20 ans pour uniquement produire des suites de La Guerre des Étoiles, etc., ou même produire certains films de ses camarades. Alors que Kubrick, c'est pas du tout ça. Kubrick, c'est simplement quelqu'un qui a commencé de façon extrêmement artisanale, en faisant bien avant la Nouvelle Vague, en tout cas quelques années avant la Nouvelle Vague, ce qu'on a crédité Godard d'avoir fait, alors qu'en fait il a été bien avant Godard, en 1953, il commençait à tourner, et en 1955 dans les rues de New York, exactement comme à bout de souffle, 4-5 ans avant, en faisant lui-même le montage, la photographie, ce que n'ont jamais fait les gens de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire qu'il était vraiment, il était toutes les techniques, depuis le scénario jusqu'au montage, en passant par la photo, c'est lui qui le faisait lui-même. Donc un bricoleur artisan qui, petit à petit, par ses succès, a compris très vite qu'on ne pouvait pas créer librement aux États-Unis si on n'avait pas une certaine forme d'indépendance financière, parce qu'il avait observé la soumission des grands cinéastes américains au système des studios. Et donc, en dehors de Spartacus, dont on pourra peut-être reparler, en dehors de Spartacus, tous les films de Kubrick à partir de Lolita ont été produits par lui. Ça lui a permis d'avoir une autonomie parfaite. Alors évidemment, il est distribué par la Warner Bros, la Warner qui lui donne de l'argent tous les mois, qui lui prépare ses projets. Il est financé par les grandes compagnies, mais il a, si vous voulez, je dirais pas un empire, il a une forme de contrôle absolu sur tout ce qu'il fait, mais uniquement par rapport à ses films. Ce qui intéresse Kubrick, pointe à la ligne, c'est ses films. Et tout s'explique par là. C'est-à-dire, c'est un homme qui veut que les films, les affiches ne ruinent pas l'image du film, que la projection à l'étranger ou en Angleterre ou ailleurs ne soit pas gâchée par un mauvais projectionniste ou une mauvaise salle, etc. Donc tout est par rapport à l'intégrité.
Même les sous-titres, ils contrôlent, ils arrivent.
Tout vise l'intégrité de l'œuvre qu'il veut faire. Et donc il s'est donné d'abord la liberté de les créer comme il le voulait et ensuite de pouvoir les suivre. C'est ça son empire. C'est pas du tout un mania à la Howard Hughes ou à la Hearst qui veut contrôler des radios, comme par exemple Coppola aussi, qui va avoir des chaînes de radio, qui va avoir des journaux. Pas du tout. C'est pas du tout son but. Son but, c'est un artisan. Il est un peu comme Godard. Je crois qu'en fait, Kubrick travaille. J'ai commencé une comparaison avec Godard, je la poursuis. Au fond, Kubrick travaille sur des films qui vont s'adresser à des millions de spectateurs et qui coûtent des millions de dollars, de la même façon artisanale que Godard à Rolle, au bord du lac Léman, avec sa table de montage. C'est exactement la même chose. C'est ça qui est stupéfiant. Sauf qu'il est à l'autre bout du spectre de Godard. Godard est dans les petits films pour un public extrêmement choisi, alors que Kubrick travaille pour le public populaire. Mais il travaille exactement la même indépendance.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
C'est un cinéma qui réfléchit sur le cinéma. C'est-à-dire que Kubrick fait partie d'une génération, après il y en aura beaucoup d'autres, il y a la Nouvelle Vague, bien sûr, il y a Wim Wenders, il y en a bien d'autres, qui sont des cinéphiles qui deviennent des cinéastes. C'est-à-dire que quelqu'un regarde l'écran, il est cinéphile, et ensuite il entre dans l'écran, il entre dans le cinéma, par le biais de la cinéphilie. Ce sont des cinéastes. Kubrick n'a jamais été critique de cinéma, mais en même temps, on peut le ranger parmi les critiques devenus cinéastes. C'est-à-dire qu'il a fait ses études, en fait, en autodidacte au Musée d'Art Moderne de New York. Il voyait 3 ou 4 films par jour, comme à la Cinémathèque, ça a été le cas pour la Nouvelle Vague ou pour Wenders, à Paris. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a assimilé le cinéma mondial. Et je pense que chez lui, il y a une volonté dans chacun de ses films de tirer un trait ultime et définitif sur chaque genre. C'est-à-dire, à mon avis, la démarche de Kubrick, c'est quelqu'un qui veut épuiser les possibilités d'un genre. Et quand il a décidé de faire un film sur le XVIIIe siècle anglais, comme Barry Lyndon, il veut faire mieux que tout ce qui a été fait jusque-là. Il se dit pas, contrairement à tellement de gens, je vais en faire un de plus, parce que ça marche, donc c'est un filon qu'il faut exploiter. Lui, ce qu'il veut, c'est un peu dépasser, ce qui est le propre de... Bon, ça devait être ça chez Beethoven ou chez Michel-Ange. C'est-à-dire, savoir qu'on est arrivé à un stade de l'histoire de l'art, à un certain moment, et le but, c'est de surpasser ce qui a précédé, ce qui est normal. Ça peut paraître orgueilleux, mais c'est ce qui motive les artistes. Et je crois que dans le film d'horreur, il a voulu faire Shining, le film de guerre, il a voulu faire Full Metal Jacket, le film de Docteur Folamour, le film de science-fiction, nucléaire, etc. Et je crois que c'est ça qui l'intéresse. Dans Barry Lyndon, c'est pas simplement de faire une histoire individuelle de Barry Lyndon, mais de comprendre ce que c'est qu'une civilisation qui va s'écrouler et de montrer le 18e siècle à la fois dans sa splendeur et dans ses ombres. C'est ça qui le motive tout le temps. C'est-à-dire, quand il a fait le film sur la guerre nucléaire, Docteur Folamour, pendant un an, il a travaillé à fond sur le problème du nucléaire pour ne pas faire une seule erreur sur comment peut se déclencher une attaque nucléaire.
Laurent Vachaud.
Un côté Attila chez Kubrick, qui, en même temps qu'il porte un genre à son paroxysme, le tue complètement et le rend impossible pour les autres. Quoi. C'est-à-dire c'est très difficile de passer après Kubrick. Quoi.
En même temps, 2001 Odyssée de l'espace, on a l'impression qu'il aurait plutôt ouvert un genre.
Bah, qu'il a ouvert un genre, c'est-à-dire qu'il a ouvert plutôt un espace d'investigation pour le cinéma, c'est-à-dire l'espace sidéral, enfin les galaxies étaient avant des films, étaient en fait utilisés dans des films qui étaient des films de série B, c'est-à-dire Planète Interdite, des choses qui étaient très bande dessinée. Et lui, il a fait, disons, le premier film adulte sur l'espace et sur la science-fiction. On peut peut-être mettre le film de Tarkovsky aussi, qui s'appelait Solaris, qui est venu après. Mais disons qu'après, les films sur l'espace, La Guerre des Étoiles et les space opéras, les Star Trek, sont des films qui sont complètement revenus aux recettes des années 50 ou même des séries des années 40 comme Guy l'Éclair. C'était des choses très adolescentes. Et l'énigme posée par 2001 de l'Odyssée de l'espace, je ne pense pas qu'on retrouve un film de science-fiction qui soit allé aussi loin et même dans le côté aussi impénétrable comme ça sur l'énigme posée par le film, parce que c'est un film qui n'est pas forcément évident et qui ne s'adresse pas a priori aux enfants comme les films de George Lucas, quoi.
Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Where the hell did you get that idea, Hal?
Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock.
Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult.
Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors.
Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Hal? 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 Hal?
2001, je pense que c'est assez simple, c'est-à-dire c'est comment on passe de l'homme-singe à l'homme et comment on passe de l'homme à quelque chose de plus évolué encore qui est représenté par ce fœtus à la fin. Et qu'en fait, ce que dit le film, qui est extrêmement pessimiste, c'est que c'est les extraterrestres, ou du moins une force extraterrestre qui peut aider l'homme à évoluer et que sans cette force extraterrestre, l'homme n'est rien. Et force extraterrestre qu'on peut rapprocher de Dieu à la fin, puisque c'est presque quelque chose qu'on peut voir sous l'angle religieux, quoi. Mais 2001 Odyssée de l'espace, c'est un film qui a été fait dans les années 60, et je pense que c'était une période aussi pour le cinéma où, dans les rapports qu'avaient les cinéastes avec les grands studios, il y avait une plus grande liberté, il y avait une plus grande audace aussi. Je pense que Kubrick pourrait plus faire un film comme ça maintenant sur le plan de l'audace des idées, sur le plan du côté obscur, même d'ailleurs les films qu'il a fait depuis, c'est-à-dire en gros, depuis son gros échec de Barry Lyndon, parce que Barry Lyndon a été un gros échec en Angleterre et aux États-Unis, sont des films qui, à chaque fois, s'inscrivent dans des genres très commerciaux. C'est-à-dire que Shining est beaucoup moins audacieux que pour le film d'horreur que ne pouvait l'être l'Odyssée de l'espace pour le film de science-fiction. Même chose pour Full Metal Jacket, qui a même pu déconcerter pas mal de ses admirateurs sur le côté extrêmement simple du film, c'est-à-dire l'entraînement des Marines et après une sorte de déambulation au Vietnam, mais sans réel scénario. C'est-à-dire le vrai scénario de Full Metal Jacket, dans la fin, c'est une gamine qui tire sur des GI et c'est tout. Mais il n'y a pas autre chose. Et c'est plus quelque chose de très cérébral. Disons que l'intrigue passe presque au second plan. C'est plus du tout des... Alors que jusqu'à Barry Lyndon, disons qu'il y avait quand même... Le scénario était quand même assez original. Même chose pour Orange Mécanique. Mais je crois aussi que ça tient pas tellement à son talent ou à son tarissement d'idées. C'est que le système de production est plus le même. C'est-à-dire qu'on pourrait plus donner autant d'argent à un metteur en scène pour faire un film complètement incompréhensible, quoi. C'est-à-dire ça, c'est évident. Et je pense que 2001 Odyssée de l'espace, même, ce serait en dehors de portée de n'importe qui. Je pense que même pas Spielberg pourrait faire un film aussi audacieux.
Excuse me, Frank.
What is it, Hal?
We've got the transmission from your parents coming in.
Well, fine. Would you put it on here, please? Take me in a bit?
Certainly.
Hello, Frank.
Happy birthday, darling.
Happy birthday. Many happy returns of the day.
Laddie, are you doing well?
Yeah, Mother and I are both feeling wonderful, too. Ray and Sally were going to be here, too, but at the last minute, Ray's back went bad on them again.
How do you like your cake, dear?
Looks great, doesn't it? Sorry you can't join us. Yeah. Oh, I ran into Bob the other day. He said to be sure and wish you happy birthday.
All my students made me promise to send their best wishes, too. You know, they talk about you all the time in the classroom. Frank, you're a big celebrity in the second grade.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Frank. Happy birthday to you. See you next Wednesday.
Happy birthday, Frank.
Thank you, Hal. Bit flatter, please.
On peut dire que c'est un cinéaste complètement obsessionnel.
Jean-Marc Guino.
Et au travers à chaque fois d'un sujet différent, même s'il a tourné plusieurs films de guerre. Mais je veux dire, son premier long métrage qu'il refuse de montrer maintenant, Fear and Desire, se passe pendant la guerre. Docteur Follamour se passe pendant la guerre, Les Sentiers de la Gloire se passe pendant la guerre, Barry Lyndon se passe pendant la guerre, Full Metal Jacket. Si on prend déjà que les purs films de guerre, il y en a déjà 5 sur 12, sur ces 12 films. Et après, il y a la guerre qui traîne dans tous les autres, c'est vrai, elle traîne. Et donc ça aussi, c'est déjà une réminiscence qui est là tout le temps. Il y a la guerre, même Lolita, c'est un film de guerre. C'est une guerre de couple, d'une certaine façon, comme le nouveau film qu'il est en train de faire, Eyes Wide Shut, qui est une crise obsessionnelle de couple. C'est la guerre, mais au lieu d'avoir la guerre dans les tranchées sont dans les matelas, dans les têtes d'oreiller. Mais c'est la guerre. De toute façon, Kubrick ne filme que la guerre. Ce n'est pas un monde calme. Et les seules parties à peu près calmes de l'univers de Kubrick sont dans 2001, d'ailleurs.
Quand l'homme, en quelque sorte, essaie d'échapper à la sphère contingente, enfin la sphère de la Terre, et pour au moment où il va réussir à s'envoler enfin dans les cieux. Il y a d'ailleurs ce passage que tout le monde a en tête, parce qu'il a vraiment créé quelque chose à ce niveau-là, de cette fusée qui s'en va dans l'espace au son des valses de Strauss. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire à voir, qu'on ne peut plus oublier.
Mais c'est le seul passage où l'homme arrive à échapper. Il échappe d'abord à l'attraction terrestre. Une fois qu'il est en haut, la décision qu'il prend, Bowman, dans 2001, c'est l'espace, c'est une décision qu'il prend à son insu. Il ne décide pas. Il trouve quand même un adversaire en haut, avec cet ordinateur déréglé, mais créé par les hommes. Mais le fait qu'il veuille aller vers cette quête d'absolu, qui devient donc fameux, d'une certaine façon, fils de Dieu, d'une certaine façon, qui fasse tout ce récit, mais c'est un élu, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en réchappent, d'une certaine façon. C'est lui, c'était vraiment un élu. Déjà, il fallait partir faire cette mission sur Jupiter, suivre ce monolithe qui avait été laissé. Donc, c'est vraiment un cas unique.
Cette grande pierre noire que l'on voit tomber sur Terre, donc au tout début du film, dans des âges tout à fait préhistoriques, et qui semble aussi très énigmatique en même temps. On ne sait pas très bien ce que c'est. On voit les singes, donc nos ancêtres, qui tournent autour. Et c'est très mystérieux, ce début de 2001.
Et d'ailleurs, on voit les cosmonautes, qui sont donc des gens civilisés, évolués au milieu du film, tourner autour du monolithe de la même façon que les singes, sans rien comprendre de plus que les singes. Par contre, aux singes, ça leur a donné l'idée de l'os, de l'arme. Et à eux, ça va leur donner l'idée aussi d'aller, de pousser plus loin leur mission. Mais même les hommes évolués ne se différencient pas énormément des singes. tous ces hommes évolués qui ont réussi, à force de prouesses et de miracles, à envoyer des objets volants sur la Lune avec des hommes dedans, ne comprennent pas plus que les anciens. Et donc c'est bien, mais alors ça c'est sous-jacent, c'est plus réaliste dans Orange Mécanique. C'est bien cette idée des hommes de fabriquer des univers autour des hommes. Mais l'homme en lui-même, il ne change pas tellement. On lui rajoute des plantes, des chénifies. On lui rajoute beaucoup de choses pour améliorer son quotidien. Mais l'homme, on ne le fait pas si évoluer que ça.
C'est cet élément que vous reprenez dans l'une des photos que vous avez dans ce livre, donc consacré à Kubrick, où l'on voit l'un des casques des soldats de Full Metal Jacket, sur lequel il y a écrit « Born to kill », né pour tuer. Et on a l'impression que c'est effectivement la constante humaine la plus évidente.
Et en plus, c'est vraiment, je crois que c'est un des sujets aussi de prédilection de Kubrick, la bêtise. C'est-à-dire qu'on a inventé des armes inouïes pour pouvoir s'écharper, pour pouvoir se détruire encore plus facilement, mais pas pour autre chose. En fait, toutes ces guerres qui se sont échelonnées les unes à l'autre, pourquoi Kubrick a fait Full Metal Jacket alors qu'il y avait eu avant Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer? Pourquoi? Avec, et j'en oublie, Casualties of War de Palma, pourquoi Kubrick, alors qu'il y avait déjà des sommes énormes sur cette guerre-là, a voulu le faire aussi? Bon, il aurait pu, il a fait donc un film sur la guerre de 14, donc Les Sentiers de la Gloire. Le fameux film qui a été interdit, mais pour quelle raison? C'est absolument hallucinant d'imaginer un film comme Les Sentiers de la Gloire interdit, juste parce qu'il montrait la vérité. C'est-à-dire que les officiers avaient donné l'ordre à leurs hommes d'aller se suicider, sachant très bien où ils allaient, qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Mais ça, Kubrick n'est pas le premier à l'avoir montré. Raoul Walsh l'a montré dans Aventure en Birmanie, c'est exactement la même chose. Anthony Mann, je le cite d'ailleurs dans le livre, dans Code 465, et il y en a plein d'autres. Donc l'évolution n'est que technologique. La même façon dans Orange Mécanique, quand il écoute des laserdiscs en miniature ou des petites cassettes, ce n'est qu'une évolution technologique. Mais l'évolution de pensée, enfin, de la majorité des individus n'a pas évolué.
I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Let me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps.
La violence chez Kubrick est toujours... il y a toujours une réflexion sur la violence. Je veux dire que dans Full Metal Jacket, par exemple, c'est évident que tout cet entraînement des marines pour transformer les gens en robots a tué, qui est vraiment effrayant, la transformation d'hommes en automates. Et en même temps, il y a un humour noir dans le film, puisque tout cet entraînement ne leur sert à rien, puisqu'ensuite ils se font décimer par une femme, en plus c'est une femme jaune, donc la race inférieure pour les Américains, et c'est une Vietnamienne toute seule qui décime un bataillon de jeunes soldats, de marines, qui ont été formés pour être invincibles. Et on a vu à quel entraînement intensif. Donc il y a une vraie réflexion sur la société, sur l'usage que la société fait de la violence, etc. Parce que je pense que chez Kubrick, il prend la violence au sérieux. C'est la différence avec beaucoup de cinéastes qui se repaissent de violence, qui en accumulent, qui quasiment ont une jouissance devant la violence, une jouissance d'enfant, parce qu'ils auraient peur d'un coup de poing. Je pense que chez Kubrick, il y a une vraie peur de la violence et il nous transmet cette peur.
En même temps que entre Full Metal Jacket et Les Sentiers de la Gloire, par exemple, on retrouve aussi ce même regard dérisoire porté sur l'armée en tant que corps constitué, parce que c'était déjà l'élément dominant des Sentiers de la Gloire, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être un film longtemps interdit en France. Et il y a aussi cet aspect-là qui ressort.
Bah, écoutez, il suffit de regarder les dernières images de Full Metal Jacket, où tout de même les soldats dans un champ dévasté, de débris, etc., s'y flotte l'air du Mickey Mouse Club. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Walt Disney, que l'armée américaine amène avec elle Walt Disney, et que c'est Walt Disney autant que l'armée américaine qui conquiert le monde. Mm-hmm. Je veux dire, il y a une façon absolument dérisoire de parler effectivement de l'impérialisme américain, de montrer ce qu'il est, transportant avec lui cet univers de carton-pâte. Je crois que Kubrick est extrêmement lucide là-dessus. C'est pour ça que lui faire un...
Sans parler de Dr. Follamour, qui aussi, dans le genre, n'est pas mal non plus.
Bah, c'est-à-dire Docteur Follamour, Docteur Follamour, effectivement, il montre, si vous voulez, le décalage qu'il y a entre les moyens technologiques dont l'homme dispose, c'est-à-dire la capacité de littéralement de faire sauter la planète, et puis l'intelligence humaine. C'est l'histoire de Frankenstein, c'est-à-dire que l'homme est arrivé à un tel contrôle, mais non contrôle en même temps, parce que l'être humain reste aussi névrotique, fou, incompétent, éclectique, versatile, changeant, etc., qu'il y a 2500 ans. Mais les conséquences de cette psychologie qui n'a pas changé sont beaucoup plus grandes dans une époque, évidemment, à la technologie très avancée. Et évidemment, d'où le comique absolument terrible, mais en même temps très vrai. C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter des conversations, d'entendre des gens qui ne sont pas devant les caméras de télévision, quand ils commencent à parler entre eux, etc., de façon en téléphone, etc., c'est absolument dérisoire. Ils parlent de choses, on majore l'importance des grands de ce monde, mais finalement, comme le montre Kubrick, on en est vraiment à la popote, à parler de petites choses, etc. C'est pas, et le sort du monde est en question de la même façon.
Hello, hello, Dimitri. Listen, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Oh, that's much better. Yes. Fine, I can hear you now, Dimitri. Clear and plain and coming through fine. I'm coming through fine too, eh? Good, then. Well, then, as you say, we're both coming through fine. Good. Well, it's good that you're fine and I'm fine. I agree with you. It's great to be fine. Now then, Dimitri. You know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Well, now, what happened is one of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Well, let me finish, Dimitri. Let me finish, Dimitri. Well, listen, how do you think I feel about it? Can you imagine how I feel about it, Dimitri? Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Of course I like to say hello. Not now, but any time, Dimitri. I'm just calling up to tell you something terrible has happened. It's a friendly call. Of course it's a friendly call. Listen, if it wasn't friendly, you probably wouldn't have even got it. They will not reach their targets for at least another hour. I am positive, Dimitri. Listen, I've been all over this with your ambassador. It is not a trick. Well, I'll tell you. We'd like to give your air staff a complete rundown on the targets, the flight plans, and the defensive systems of the planes. Yes, I mean, if we're unable to recall the planes, then I'd say that, we're just going to have to help you destroy them, Dimitri.
Là, c'est vraiment l'arme suprême, mais c'est l'arme atomique. Et on voit l'homme alors confronté à cet univers et d'une manière absolument terrifiante.
Et en plus, c'est tellement évident dans Docteur Follamour qu'on voit les hommes tellement démunis qu'on voit les deux présidents, l'un de l'URSS et des États-Unis, qui n'ont absolument aucun pouvoir sur les armes dont soi-disant ils disposent et qui sont en train de se parler avec un téléphone qui marche à moitié bien, sans pouvoir absolument agir. Donc, de toute façon, Docteur Follamour est un, et je crois, restera le film le plus drôle de l'histoire du cinéma pour moi, même s'il est très angoissant. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est un des films favoris d'énormément de réalisateurs. Kubrick est adulé par énormément de ses pairs, ça c'est sûr, de Scorsese à Gilliam, en passant par Spielberg et compagnie.
Et Tavernier.
Et Tavernier notamment. Mais c'est vrai, quand on leur demande à tous ces gens-là, quel est leur film favori de Kubrick, c'est souvent Docteur Follamour qui arrive en premier, parce que c'est le film vraiment qui a réussi avec ce fameux style documentaire, étonnant, parce que c'est un film complètement baroque. Mais en même temps, il a un style totalement documentaire, totalement d'une précision absolument absolue. Et le film est tellement sarcastique que je crois que personne, tout le monde rêve de faire un film comme Docteur Follamour. C'est vraiment un film... il a bénéficié de Peter Sellers, qui joue quatre rôles dans le film. Mais il a bénéficié d'énormément de choses. C'est un film miracle, Docteur Follamour. Mais Et en plus, il s'agit quand même du sujet qui intéresse le plus Kubrick, qui parle évidemment beaucoup de guerre dans ses films, la fameuse, la guerre atomique. Si on appuie sur le bouton, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Et bon, de voir des gens qui ont oublié le numéro de code, ça a été repris. Je veux dire, Docteur Follamour est cité d'une façon sous-jacente dans énormément de films, mais aucun film ne pourra égaler Docteur Follamour. Je pense que c'est vraiment le film parfait. Il dure 1h30, c'est une bombe. Le film en lui-même est une bombe. Seulement, Kubrick a choisi, lui, de rire. Et donc, de faire rire pendant 1h30, mais de provoquer des fous rires. C'est des explosions qui procurent aux spectateurs dans Docteur Follamour.
Oh, blast. I'm still trying to send short. Operator, hold on. I'll try and keep it a second. Colonel, that Coca-Cola machine, I want you to shoot the lock off it. There may be some change in there.
That's private property.
Colonel, can you possibly imagine what is going to happen to you, your frame outlook, way of life and everything, when they learn that you have obstructed a telephone call to the President of the United States? Can you imagine? Shoot it off! Shoot with a gun! That's what the bullets are for, you twit!
Okay. I'm gonna get your money for you. But if you don't get the President of the United States on that phone, you know what's gonna happen to you?
What?
You're gonna have to answer to the Coca-Cola company.
Il y a deux parties. D'abord, il y a un moment, Peter Sellers donc, cherche absolument à obtenir le numéro code que Sterling Gaden, qui joue le général Ripper, a soi-disant avalé. C'est-à-dire qu'il ne veut pas le dire, puisque c'est lui qui a déclenché la guerre nucléaire. Et il doit téléphoner au Pentagone. Et il n'a pas de monnaie sur lui. Et il n'a pas du tout de sous sur lui. Et le seul endroit où il peut trouver de l'argent, c'est dans une cabine de Coca-Cola. Mais le symbole, en fait, il prend un des officiers qui est là, qui vient d'envahir la base, et qui arrive avec son fusil mitrailleur, et n'ayant pas la clé pour ouvrir une simple boîte de Coca-Cola, est obligé de tirer sur la pauvre boîte de Coca-Cola pour faire sortir la monnaie. Et il y a toute une discussion absolument inouïe entre Peter Sellers et ce général, et c'est pas un général, hein, et ce lieutenant, pour le convaincre qu'il a besoin de tirer sur cette bouteille de Coca-Cola qui est propriété de l'État, pour téléphoner au Pentagone, au président des États-Unis. Évidemment, c'est difficile d'avoir en face quelqu'un qui vous croit. Puisque les Russes, pendant toute la guerre froide, on a été convaincus qu'ils n'avaient pas la bombe atomique. Mais admettons qu'il l'ait. La bombe tombe et c'est la destruction du monde. Et ils sont en train de parler devant une machine de coca, alors que c'est le monde qui est en jeu.
We'll meet again.
La manière dont il arrive au cinéma est assez singulière aussi, parce qu'en fait, c'est la photo qui va l'amener au cinéma, parce qu'il n'a pas fait, il ne peut pas faire d'études supérieures. Ça se passe au lendemain de la guerre, et à l'époque, l'accès aux universités est rendu quasiment impossible, parce qu'il y a trop de monde, et il ne peut pas le faire lui-même. Mais en même temps, donc, il vient de cette famille de juives new-yorkaises, il est dans le Bronx, et il réussit un jour à faire une photo d'un vendeur de journaux qui est complètement atterré, parce qu'il annonce la mort de Roosevelt.
Oui, c'est-à-dire que Kubrick avait 17 ans, je pense, puisqu'il est né en 1928, donc c'était en 45. Et il a pris cette photo. Et ensuite, effectivement, il a travaillé comme photographe pour Look. Il était un des grands photographes de reportage. Il faisait de la photo, de ce qu'on appelle le photojournalisme. Ce qui, au fond, est tout de même une préparation au cinéma. Hein, parce que c'est tout de même une façon de regarder la réalité, de la cadrer, de saisir le moment fort. Il a fait une série de photos sur un champion de boxe qu'il a ensuite transformé en un petit documentaire Day of the Fight, le jour du combat, sur ce même champion de boxe pour lequel il a fait un reportage pour Look. De même qu'il avait fait aussi des photos sur un aumônier qui parcourait les villes du Nouveau-Mexique pour aller donner l'extrême onction ou baptiser les enfants. On a fait un film qui s'appelait Flying Padre, le père volant. Et donc, c'est d'une certaine façon, si vous voulez, c'est un peu la continuité. Le cinéma, c'est aussi l'observation des gens, comme le photographe. Donc, il y a vraiment une suite. Et je pense que une des grandes forces du cinéma de Kubrick, c'est tout de même l'image, le cadrage, cette façon extraordinaire qu'il a de rendre signifiant chaque plan. c'est sûr que la formation de photographe l'a aidé, et aussi l'a aidé pour la technique de la photo, puisque Kubrick est même un des très rares metteurs en scène qui dirige véritablement la photographie. Par exemple, quelqu'un comme Truffaut avouait ne rien, pas connaître grand-chose à la photographie. Il s'en remettait complètement à son chef opérateur, pas seulement Truffaut, Billy Wilder, Kazan, etc., des tas de grands cinéastes. Tandis que Kubrick est d'une génération, et dans cette génération le premier sans doute, qui, avec Sternberg, il y avait Joseph von Sternberg dans les années 30, mais qui est capable effectivement d'apprendre des tas de choses, c'est ce que disent ses chefs opérateurs. Avec Kubrick, c'est formidable parce que non seulement on est payé, mais on apprend beaucoup.
Mais en même temps, on apprend beaucoup et on travaille beaucoup d'ailleurs, parce que apparemment, tous ceux qui travaillent avec lui sont certains se plaignent ou constatent du moins que on sort de ses films ou des entretiens avec lui complètement épuisés, bon, aller se coucher parce qu'il a une manière d'épuiser aussi les gens. Mais si je prenais l'exemple de la photo, c'est que il y a un élément aussi qui est important et que vous analysez par rapport à l'ensemble de ses films, c'est l'importance de l'œil, par exemple. C'est un élément que l'on va retrouver dans plusieurs films, très expressément. Enfin, je pense par exemple à Orange Mécanique, une photo d'ailleurs qui est souvent reprise quand on cite le film, où on voit le personnage avec un ensemble de tuyaux sur la tête et à qui on met des gouttes dans les yeux parce qu'il va donc voir la réalité différemment. Enfin, il y a cette obsession de l'œil chez Kubrick qui me semble un élément important et qui semble dériver directement de son premier goût pour la photographie.
Oui, vous savez, Kubrick, c'est effectivement, il suffit de regarder d'abord les photos de Kubrick. Il a un regard extraordinairement intense. Et je pense que l'œil, évidemment, c'est la caméra. L'œil, c'est le cinéma. C'est-à-dire qu'on retrouve l'obsession kubrickienne qui est d'une réflexion sur le cinéma. C'est-à-dire, c'est à la différence de cinéastes comme Scorsese ou d'autres cinéastes américains de cette génération qui font un cinéma instinctif et directement en prise sur la réalité. Chez Kubrick, tout est médiatisé, tout est, disons, indirect. C'est un cinéma intellectuel, en même temps, bien sûr, très physique, parce que sinon ce serait pas du cinéma, mais ça renvoie toujours à des idées, et donc une des idées de Kubrick, c'est évidemment le regard, on le retrouve dans Shining, on le retrouve dans l'Odyssée de l'espace, l'œil central de l'ordinateur, de HAL 9000, et puis on retrouve, comme vous l'avez dit, dans Orange Mécanique, on le retrouve partout.
Shining, tout le monde a voulu dire la publicité était basée sur l'horreur, sur l'instinct des Kubrick, mais c'était faux. C'était pas du tout un film d'horreur, Shining. C'était une crise de couple. À mon avis, le prochain film qu'il est en train de tourner ressemblera beaucoup à Shining. Parce qu'un couple, quand il commence à se détruire, vu par l'œil d'un quelqu'un d'obsessionnel comme Kubrick, et d'intelligent, de suprêmement intelligent comme Kubrick, c'est une guerre. Et c'est aussi dangereux qu'une bataille de tranchées. Et c'est ce qui se passe dans Shining avec un background, parce que, comme c'est tiré d'un livre de Stephen King, d'un background qui se passe dans la neige, sur un cimetière indien. Il faut tout un background pour asseoir ça. Mais le vrai sujet de Shining, c'est une engueulade énorme qui dure 2 heures entre un couple, entre Shelley Duvall et Nicholson. Et tout le monde a voulu parler d'horreur, mais c'est pas une horreur dans le sens fantastique, du genre fantastique du cinéma. Donc, en vendant le film comme ça, le film a été mal vendu. Et au moment où le film est sorti, Shining, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est complètement raté, de quoi ils nous parlent, on n'a pas peur, etc. Mais maintenant, les mêmes gens, les mêmes personnes, ont très peur de Shining.
What's wrong? Jake! terrible nightmare I ever had. It's the most horrible dream I ever had.
It's okay now. Really.
Well, I dreamed that I killed you and Danny. But I didn't just kill you. I cut you up into little pieces. Oh, my God. I must be losing my mind.
Everything's gonna be all right. Come on, let's get up off the floor.
Chez les Duval qui jouaient dans Shining, se plaignaient d'avoir eu à refaire pendant 90 prises la même chose, c'est-à-dire de pousser des actrices jusqu'à un état d'hystérie pour finalement avoir une émotion plus vraie. Alors ça, c'est contestable, parce qu'il y a des metteurs en scène qui peuvent très bien arriver à quelque chose de tout à fait acceptable. Mais Kubrick a une théorie, pareil, c'est-à-dire que pour lui, de la première à la 21e prise, ça ne peut pas être bon. Donc il le fait, mais comme des répétitions. Et souvent, des comédiens donnent tout ce qu'ils ont dans les premières prises. Mais là, il y a presque un côté presque de l'ordre de la transe, c'est-à-dire que passé un certain nombre de prises, l'acteur est dans un tel état d'épuisement que finalement, il oublie le texte et la scène, et là, il peut-être découvrir quelque chose qu'il n'avait pas donné avant. Alors ça, c'est très contestable, hein, je veux dire, c'est pas du tout... Mais
c'est subliminal.
Presque, oui, et puis c'est pour ça que ces tournages prennent tellement de temps, c'est-à-dire que si pour la moindre scène où il faut un type descendre d'un chasse-neige pour rentrer dans un hôtel comme dans Shining, il fait 80 prises... Qu'est-ce que c'est quand après vraiment il y a quelque chose à jouer avec du dialogue, quoi. C'est sans fin.
What are you doing down here?
I just wanted to talk to you.
Okay. Let's talk. What do you want to talk about?
I can't really remember.
You can't remember?
No, I can't.
Maybe it was about Danny. Maybe it was about him. I think we should discuss Danny. I think we should discuss what should be done with him. What should be done with him?
I don't know.
I don't think that's true. I think you have some very definite ideas about what should be done with Danny, and I'd like to know what they are.
Well, I think maybe he should be taken to a doctor.
You think maybe he should be taken to a doctor? When do you think maybe he should be taken to a doctor?
As soon as possible.
As soon as possible.
Il a toujours voulu tourner un moment avec des stars comme avec des inconnus. Il y a cette alternance, ça a toujours existé chez lui. Et c'est vrai que Full Metal Jacket était un film fait avec des inconnus, puisque c'était tous des jeunes mecs. Matthew Modine était peut-être le seul connu. On l'avait vu dans Birdie avant, mais c'était pas une star. Mais Jack Nicholson avant était vraiment un acteur très connu, alors que dans Orange Mécanique, Malcolm McDowell, c'était en gros son premier rôle vraiment vedette. Et problème après, c'est que c'est des gens qui sont marqués à vie par le rôle qu'ils ont fait avec Kubrick. C'est-à-dire Malcolm McDowell, il a refait après pendant X films ce qu'il avait fait dans Orange Mécanique. Et Jack Nicholson, il a été marqué à vie par les grimaces qu'il faisait dans Shining jusqu'au Batman, où il faisait exactement, alors là, presque au carré. Et donc, ce sera intéressant de voir la carrière de Tom Cruise après le film de Kubrick, parce que Ryan O'Neill, c'est pareil, hein, il n'a plus rien fait après, quoi. Donc, c'est toujours ce côté destructeur, c'est-à-dire c'est créé par la destruction, c'est-à-dire c'est détruire le genre, et c'est presque en même temps prendre un acteur et le pousser dans des retranchements tels qu'à la fin son image est brisée et qu'il peut pratiquement plus rien faire. Enfin, je crois qu'il y a fondamentalement quelque chose de fondamentalement destructeur chez Stanley Kubrick, à la fois dans les histoires qu'il raconte, puisque c'est des histoires de prédateurs, hein, à chaque fois c'est une cruauté extrême, c'est toujours un monde vraiment sans amour, sans sentiment, où ne prévaut que l'instinct de mort, tu vois, les sentiers de la gloire, Spartacus, Orange Mécanique, et en même temps, bon, je pense pas qu'il soit très violent comme personnage.
Ce qui est intéressant chez Kubrick, c'est que d'une part, c'est évidemment un cinéaste obsessionnel, c'est un très grand technicien, c'est un homme très préoccupé de la forme, mais en même temps, malgré son isolement dans sa maison, où il ne voit personne, ou très peu de gens, visiblement, il sait établir des rapports humains formidables, et c'est quelqu'un qui est passionné par la direction d'acteurs. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme Bresson ou Sternberg, par exemple, qui ont pour les acteurs une sorte de risque de révulsion, qui pensent que l'acteur va abîmer leur film. Kubrick, de ce point de vue-là, est un Américain classique. C'est-à-dire qu'il fait confiance à l'acteur, il croit à l'acteur, il adore les acteurs. Ce qui est un peu inattendu de quelqu'un dont on pourrait penser qu'il est perdu dans son songe, dans le caractère conceptuel de ses œuvres. Il aime beaucoup le corps, il aime beaucoup la voix, il aime beaucoup le visage. Et effectivement, il donne à ses acteurs le maximum de potentialité. C'est vrai que Peter Sellers, George C. Scott, Jack Nicholson ont donné des performances extraordinaires. Alors évidemment, ça donne un travail considérable pour que l'ensemble du dispositif, l'éclairage, l'angle, le corps, la voix, l'expression du visage, tout soit à leur maximum. Alors évidemment, c'est assez éprouvant, comme avec chacun de ses collaborateurs. Et en général, en plus, il a raison. C'est-à-dire que ce qui est terrible avec Kubrick, c'est que c'est pas quelqu'un qui fait des caprices ou qui veut ennuyer les gens. Il y a des gens qui sont un peu sadiques, comme ça, qui ont le résultat qu'ils veulent, mais qui, par plaisir... Non, il y a toujours une raison, parce que c'est un homme qui applique sa rationalité à tout ce qu'il touche, et donc il y a toujours une raison. Et en général, ses collaborateurs rendent les armes, c'est-à-dire qu'ils disent « oui, il avait raison ». On a refait 32 fois les dessins préparatoires de ce décor, mais il avait raison. Oui, on a refait les costumes, mais il avait raison. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est très exigeant, mais en général, ses collaborateurs... moi, j'ai vu... Les gens parlaient d'autres metteurs en scène, même des metteurs en scène de qualité, en haussant les épaules. Vraiment, c'est un maniaque, mais ça ne correspond pas du tout à une nécessité. Tandis que chez Kubrick, j'ai jamais entendu un seul de ses collaborateurs dire cela. Les scénaristes comme les chefs opérateurs. Et pour les acteurs, c'est la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a deux types d'acteurs, visiblement. Il a une dilection, ou bien pour les acteurs expressionnistes, qui surjouent même dans une sorte de... d'exubérance d'extrême du masque. C'est évidemment Nicholson, c'est le sergent recruteur dans Full Metal Jacket, c'est Lee Harvey, je crois. C'est également, bien sûr, Peter Sellers dans les trois personnages du Docteur Follamour. Et puis, d'autre part, il aime aussi alors des gens totalement lisses, assez inexpressifs, qu'il va, au fond, déstabiliser dans leur beauté un peu fade. C'est le cas de Ryan O'Neill dans Barry Lyndon. Ça sera probablement le cas de Tom Cruise dans le prochain film qu'il a tourné. C'est le cas de Cary Delea dans L'Odyssée de l'espace. C'est même un peu Matthew Modine dans Full Metal Jacket. C'est-à-dire des jeunes gens, c'est soit un certain âge avec les rides, les marques, un peu comme des masques de clown pratiquement, ou alors au contraire une sorte de côté policé. C'est très intéressant de ce point de vue-là, la typologie du comédien chez Kubrick. Mais les acteurs croient qu'en allant jouer avec Kubrick, ça va probablement donner un élan fabuleux à leur carrière, alors qu'en fait non, parce que évidemment la vedette du film c'est Kubrick, et que l'acteur est peut-être excellent, mais c'est pas pour cela que ça va tenter d'autres metteurs en scène de l'utiliser, parce que l'acteur est partie intégrante d'un système qui est le système kubrickien, comme le chef opérateur, comme le décorateur, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté démiurge dans sa démarche où tout converge vers la création centrale.
I don't think she should be stuffing herself when she should go to sleep.
But Mom, I'm hungry and I've got to have something to eat.
All right. But you take it upstairs and after you've eaten it, you go right to sleep.
Did you have a good time dancing with Claire Quilty?
Well, of course. He's a very erudite gentleman.
Yeah, I know. All the girls are crazy about him, too.
That's neither here nor there.
Since when?
Here we are. Excuse me. It's loaded with mayonnaise just the way you like it.
Thank you.
Darling, take it upstairs.
I don't want to go to bed. It's too early.
We all think that Lo should go to bed.
I don't have to. This is a free country.
Which means there will be no allowance this week.
Which means I think you stink this week.
To bed at this instant! I heard that.
Good night, Leo.
Oh, that miserable little brat. She is becoming impossible. Simply impossible. The idea. The idea of her sneaking back here and spying on us.
I don't think she was spying.
Oh, really? What would you call it?
I'm sure she intended no harm.
Like hell she didn't. She's always been a spiteful little pest since the age of one. Do you know she kept throwing her toys out of her grip so that I would have to keep stooping over to pick them up? She has always had some kind of gripe against me. Now she sees herself as some kind of a starlet. Well, I see her as a sturdy, healthy, but decidedly homely child. I mean, is it my fault if I feel young? Why should my child resent it? You don't resent it, do you? Do you think that I'm just a foolish, romantic American girl?
No.
C'est surtout pas en plus un cinéaste très attiré par les personnages féminins. C'est-à-dire c'est généralement les personnages féminins des films de Kubrick. Enfin, si on fait le compte, hein, se font en général tous tuer, tromper, humilier. Alors, c'est la jeune Viet Cong de Full Metal Jacket qui tue tous les hommes et qu'on finit par abattre comme ça, comme un chien d'une balle dans la tête. C'est Shelley Duvall dans Shining qui est une épouse complètement délaissée, dépressive, pas vraiment gâtée par la nature. C'est Marissa Berenson dans Barry Lyndon, c'est-à-dire que son mari ne prend que pour son titre et son argent et qu'il trompe avec ses femmes de chambre. Dans Orange Mécanique, les femmes sont vraiment juste des objets sexuels que le héros viole à n'en plus finir. Dans 2001, Odyssée de l'espace, on peut pratiquement dire que les filles sont complètement absentes du film. Et même si à la fin, il y a un bébé, la femme est complètement absente du film. Même chose pour Docteur Follamour. Bon, dans Lolita, c'est peut-être le seul film où il y a une figure féminine. Mais là, c'est quand même très déviant aussi, puisque c'est une nymphette. Et le héros ne courtise une femme que parce qu'elle est la mère d'une nymphette qui l'attire. Donc c'est toujours très pervers. Dans L'Ultime Razzia, il y a une femme... C'est une femme fatale, enfin, c'est pas du tout le cinéaste de la femme.
I see her red door on my wall, painted black. No colors anymore, I want them to turn black.
I see the girl walk by dressed in their summer clothes. I have to tell my.
Qui est extrêmement pessimiste et d'une certaine manière la chanson qu'il avait placée au générique de fin de Full Metal Jacket, c'est une chanson des Rolling Stones qui s'appelle Painted Black, et qui est l'histoire de quelqu'un qui ne voit plus les couleurs, qui ne peut s'empêcher de tout repeindre en noir. C'est-à-dire, ça dit clairement sa vision du monde. C'est pas du tout. Enfin, il n'y a pas d'espoir, effectivement, dans les films de Kubrick, à part peut-être à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, où on voit cette espèce de surhomme qui a l'air d'annoncer un nouvel âge pour l'humanité, mais en même temps, on ne sait pas si ça va être bon ou si ça va être négatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Ça finit un peu en point d'interrogation. Mais la fin de Shining est extrêmement pessimiste, la fin de Barry Lyndon, on n'en parle même pas, et Orange Mécanique aussi, puisque c'est en gros un individu récupéré par le système qui a été privé de son libre arbitre, quoi. Et c'est généralement des films qui sont construits en deux parties, c'est-à-dire on prend un héros négatif et on montre d'abord dans une première partie toute une série d'actions qui font qu'on est contre lui, et après une deuxième partie symétrique mais qui nous pousse à un élan de sympathie pour lui parce qu'il est en général martyrisé, ce qui était le cas d'Orange Mécanique, ou au contraire Barry Lyndon, c'est-à-dire on voit une ascension sociale et après on voit comment toutes les qualités qui ont permis au personnage de s'élever dans l'échelle sociale le font en fait chuter dans la deuxième partie, quoi. C'est extrêmement symétrique, le cinéma de Kubrick, et jusqu'aux compositions photographiques, c'est-à-dire les travelling dans Shining, la structure de l'hôtel Overlook, c'est toujours des choses extrêmement symétriques. Et ça traduit, je crois, une vision du monde comme ça, de géomètre, quoi. Enfin, c'est un esprit très mathématique, quoi, et très logique. C'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle sur tout, qui aime les diagrammes et qui aime les structures mathématiques. Ça, c'est évident. C'est pas du tout un romantique qui se laisse déborder par les sentiments. C'est-à-dire, il y a cette volonté de contrôler tout, quoi, de contrôler les éléments naturels, de contrôler le flux des sentiments aussi, parce que les personnages se laissent rarement aller à exprimer leurs sentiments dans les films de Kubrick. Ou alors, c'est dans des scènes de grande violence où, tout d'un coup, les soupapes de sécurité pètent et les gens se mettent à hurler ou à tout couper tout le monde en tranches. Mais le film symptomatique de ça, c'est Barry Lyndon. C'est-à-dire, le jeu de Barry Lyndon, du personnage de Ryan O'Neill, c'est vraiment... Il est aussi expressif qu'une peinture du XVIIIe siècle. Hein, c'est-à-dire, il ne bouge jamais, quoi. Et il y a deux scènes, et ça, ce qui ne rend plus fort, les scènes où il craque, où il pleure, ou au contraire, il explose de colère, quoi. Parce que c'est, à chaque fois, comment se contrôler et ne jamais montrer ce qu'on a à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est le visage comme masque.
To make a long story short, 6 hours after they met, her ladyship was in love. And once Barry got into her company, he found innumerable occasions to improve his intimacy and was scarcely out of her ladyship's sight.
Charles?
Good evening, Mr. Barry. Have you done with my lady?
I beg your pardon.
Come, come, sir. I'm a man who would rather be known as a cuckold than a fool.
I think, Sir Charles Lyndon, that you've had too much to drink.
What?
As it happens, your chaplain, Mr. Runt, introduced me into the company of your lady to advise me on a religious matter, of which she is a considerable expert.
He wants to step into my shoes. He wants to step into my shoes. Is it not a pleasure, gentlemen, for me, as I am drawing near the goal, to find my home such a happy one? My wife's so fond of me that she is even now thinking of appointing a successor. Isn't it a comfort to see her like a prudent housewife, getting everything ready for her husband's departure?
I hope you're not thinking of leaving us soon, Sir Charles.
Not so soon, my dear, as you may fancy, perhaps. Why, ma'am, I've been given over many times these 4 years, and there was always a candidate or two waiting to apply for the situation. I am sorry for you, Mr. Barry. It grieves me to keep you or any gentleman waiting. Had you not better arrange with my doctor, or have the cook flavor my omelette with arsenic, eh? What are the odds, gentlemen, that I live to see Mr. Barry hang yet?
Sir, let those laugh that win. Gentlemen.
Ce ne sont pas des films tendres. Il y a deux, trois moments de tendresse dans Barry Lyndon, avec père-enfant, mère-enfant. Mais entre les adultes, entre les hommes et les femmes, ce n'est pas vraiment de la tendresse, c'est de la guerre. On s'approprie du territoire, on essaie de s'approprier de la liberté. On lutte parce que la moindre avancée, le moindre pas est dur à faire. Et une fois qu'on a le pied devant l'autre, on est obligé de garder fermement la position. Parce que sinon, on peut perdre tout de suite la petite avance qu'on vient d'avoir. Et c'est une guerre frontale, ou des fois pas si frontale que ça, entre les individus, notamment entre les hommes et les femmes. Mais il ne faut pas croire, c'est un des sujets de prédilection de Kubrick, les hommes et les femmes. Le seul film où on peut voir ça, c'est Spartacus, mais qui n'est pas le film le plus kubrickien de Kubrick. Spartacus, c'est le film le moins kubrickien de Kubrick. Lui-même l'a renié pendant des années. Il l'a renié parce qu'il n'avait pas écrit le scénario, c'est Dalton Trumbo qui l'avait fait, mais ça s'est déjà arrivé autrement que dans Spartacus. Il n'avait pas lui-même été à la base du projet parce que c'était Anthony Mann qui était le premier réalisateur. Et il avait été perturbé par tous les problèmes absolument inouïs d'argent. Le film a été fait juste après Les Sentiers de la Gloire. Et on peut dire qu'il est obligé de se plier quand même au canon hollywoodien. Il est obligé quand même de faire un film qui avait un air de péplum avec Spartacus. Malgré que ce ne soit pas un film réellement signé par Kubrick, pour moi il l'est, hein, totalement. Mais de son point de vue à lui, il y a quand même, par exemple, il a intégré des scènes gore, qu'on appelle maintenant des scènes gore, qui sont passées dans le langage classique de tous les films avec les membres arrachés, etc. Il y a une bataille assez complètement violente qu'on peut qualifier de gore dans Spartacus, qui avait été coupée du premier montage, qu'il a remis dans le montage définitif. Ainsi qu'une scène qui était...
Oui, parce que Spartacus, c'est donc remonte aux années 60, oui, fin des années 50.
Ouais. Et donc le film avait été jugé trop violent sur certaines parties et trop suggestif sur la relation, la pseudo-relation homosexuelle qu'il aurait pu y avoir entre Laurence Olivier et Tony Curtis, qui joue l'esclave dans le film, la scène du bain, où il se frotte le dos et il lui demande s'il préfère les huîtres ou s'il préfère lui savonner le... c'est pas très évident, mais on voit quelque chose d'assez ambigu entre les deux, du moins du côté de Laurence Olivier. Et cette scène-là avait été intégralement coupée et il l'a remise au montage. Donc, il avait quand même des idées très subversives. C'est pas pour rien qu'il avait fait Les Sentiers de la Gloire. Il n'était peut-être pas le cinéaste hollywoodien standard. Et d'ailleurs, on l'a vu après, puisqu'il y a eu Lolita et puis le reste, Docteur Folamour, etc. Mais Spartacus, pour moi maintenant, a toujours été un film de Kubrick. Même si on peut il y a quelques scènes qui sont totalement à l'eau de rose. On peut dire à l'eau de rose dans Spartacus. Des scènes avec Jane Simmons et Kirk Douglas dans les prés, dans les fleurs, mais qui conviennent tout à fait au sujet. Mais je pense que Spartacus est un film de Kubrick, mais il a pu vraiment le faire parce qu'il était jeune. C'est son âge qui lui a permis de le faire. Et je crois que c'est une des rares fois, une des dernières fois où Kubrick était heureux malgré les problèmes qu'il avait sur un plateau. Il a dû aussi, lui, être lassé à un moment. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il a commencé à s'enfermer de plus en plus.
Ce qui est extraordinaire dans l'œuvre de Kubrick, c'est que, en fait, si l'on regarde bien la somme de ses films, elle est quand même assez pauvre. Il a presque 70 ans. Il a fait en tout et pour tout une dizaine de films. 13. C'est 13, oui. Ce qui n'est pas une œuvre prodigieuse en quantité. Mais effectivement, à chaque fois, comme vous le dites, on a l'impression qu'il épuise un genre. Et ce qui est en particulier assez singulier, c'est que, on a l'impression que chaque film renvoie au futur film qu'il est en train de préparer, auquel il est peut-être en train de penser. Enfin, il construit une sorte de système assez centripète, enfin, pour reprendre votre expression, Michel Simon, c'est-à-dire chacun des films contenant à un certain moment, vers sa conclusion, l'évolution par rapport à un film futur.
Du point de vue des thèmes visuels, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscients. Que par exemple, à la fin de 2001, l'œil du fœtus soit suivi par le premier plan d'Orange Mécanique 3 ans plus tard, qui est l'œil d'Alex, que dans les rêves d'Alex, il se voit en costume du 18e siècle et que ça annonce le prochain film qui est Barry Lyndon. Je pense que ce n'est pas du tout conscient de Kubrick. Je dirais même, au contraire, que c'est quelqu'un qui, comme un certain nombre d'artistes, se méfie souverainement de la psychanalyse, certainement la refuse, tout en la connaissant parfaitement, parce qu'il connaît Freud admirablement. Mais en même temps, si vous voulez, je crois qu'à cause de ça, à cause de sa grande connaissance de la psychanalyse, il essaye d'effacer les traces. Et qu'une des raisons pour lesquelles il change tout le temps de genre, et même de style, bien qu'il y ait des résurgences et qu'il y ait des constantes, comme le travelling arrière, qu'il affectionne particulièrement. Bon, ça, c'est sûr qu'on retrouve ça, des formes stylistiques qui sont récurrentes. Mais en même temps, je crois que chez Kubrick, outre le fait, comme je le disais, de vouloir épuiser totalement les possibilités d'un genre et de faire mieux que tout ce qui a précédé dans ce genre, il y a aussi chez lui une volonté, comme dans Shining, d'effacer les traces du petit Poucet, c'est-à-dire de ne pas laisser d'empreintes, pour que justement on n'aille pas percer ce secret, cette vie privée dont il ne veut pas qu'on parle. Il veut qu'on parle que de son œuvre, il ne veut pas qu'on parle de lui. Et donc je pense que en changeant complètement à 180 degrés, faisant des virages absolus, en passant de la science-fiction au film en costume, du film en costume au film d'horreur, du film d'horreur au film sur la guerre, puis maintenant en train de tourner un film sur les rapports jalousie sexuelle dans un couple, je crois que c'est une volonté de ne pas être épinglé, de ne pas être réduit. Il n'y a rien qu'il déteste tant que de répéter la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il a été long à se faire reconnaître par la critique, parce qu'évidemment, parce que la critique n'avait pas les répétitions qu'elle affectionne. C'est vraiment quelqu'un comme Jacques Demy, à partir de Lola, tout de suite, il a dit lui-même, je veux retrouver les mêmes personnages. Alors, tout le monde est heureux de retrouver un univers. On est à l'aise. Tandis que Kubrick a mis 20 ans à se faire accepter par la critique. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, ses films sont toujours controversés. Moi, j'ai pas vu un seul film de Kubrick qui ait eu une unanimité de la critique, comme ça s'est passé pour Truffaut ou pour d'autres cinéastes français, il y a toujours de violentes attaques, et jusqu'à Barry Lyndon, ça s'est pas passé très bien. 2001 a été, mais pas seulement en France, aux États-Unis, partout. Donc, je crois que c'est cela, c'est qu'il n'y a rien de sécurisant, mais cette volonté absolue de ne pas être reconnu, enfin identifié.
Mais de même que vous dites qu'il est toujours en but à la critique, en fait, même la reconnaissance publique ne lui a pas été accordée, dans la mesure où on n'a jamais eu d'Oscar en particulier. La reconnaissance publique par rapport au cinéma, parce que le succès des films, en revanche, est total.
Oui, mais il y a une différence entre les Oscars et le public. Les Oscars sont remis par l'establishment. Les Oscars sont remis par ses pairs, par les producteurs, par les distributeurs, par tous les gens, les comédiens, les gens qui font partie de la grande famille hollywoodienne. Et c'est évidemment, c'est un cinéma qui dérange terriblement. C'est un cinéma qui n'est pas conforme au canon du cinéma américain moyen. Il suffit de voir la plupart des Oscars depuis 20 ans. Il y a des exceptions, mais enfin, c'est souvent même des films BCBG. Je veux dire, on l'a vu encore avec Le Patient Anglais cette année. Or, c'est vrai que les films de Kubrick déroutent. Ils ne sont pas politiquement corrects. Il y a ça d'une part. D'autre part, Kubrick vit à Londres. depuis 1962, ça fait quand même 35 ans, et il n'est jamais venu à Hollywood, il a toujours témoigné du plus grand mépris, en tout cas la plus grande indifférence, à la pompe hollywoodienne. Or, Hollywood aime bien que les gens viennent lui faire des visites de courtoisie. C'est un peu comme l'Académie française. Faut faire des, si on veut être admis en son sein, il faut tout de même faire quelques éloges. Bon. Et c'est la même chose pour Robert Altman. Enfin, ce sont tout de même des cinéastes qui sont des grandes, Altman qui est une grande gueule, Kubrick qui est plutôt le silence total. Mais de toute façon, ils viennent pas faire leur tournée des popotes. Et ça, et en plus, il vit à l'étranger. Donc ça, les Américains n'aiment pas du tout. Il n'aime pas du tout. Il ne voit pas pour quelle raison cet homme. Même Lozay, qui est parti parce qu'il était chassé par le McCarthyisme, n'était pas aimé beaucoup en Amérique, alors qu'après tout, il est parti de chez lui, forcé et contraint. Mais néanmoins, on ressentait mal qu'il ait eu son succès en Angleterre et à Paris. Et je pense que dans le cas de Kubrick, il paye aussi cela. Par contre, le public, lui, a tout de suite réagi à ses films. En fait, le succès de Kubrick, c'est le public qui le lui a fait. C'est-à-dire que alors que le 2001 était assassiné par pratiquement tous les grands critiques américains et la moitié des critiques français, ça a été un triomphe mondial. Mais la jeunesse, surtout, a compris instinctivement la force extraordinaire de Kubrick, alors que les plus grands spécialistes ne s'y sont trompés. Et ça, c'est tout de même très, très, très curieux.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vit comme certains peintres pouvaient vivre à une époque. C'est-à-dire, ils sont dans leur maison et ils pensent que c'est en fait leur travail qui parle pour eux, quoi. Et ça peut paraître plus curieux d'un cinéaste parce que on est habitué à ce que les cinéastes commentent abondamment leurs films, fassent la promotion, parlent à la télévision. Mais je pense que lui, c'est quelqu'un qui parle dans ses films, quoi. Et il y a beaucoup d'autres metteurs en scène comme ça, hein, qui sont pas forcément portés sur l'exégèse, quoi. Mais il le fait parce qu'en même temps, c'est un fin stratège commercial. Il sait que ça vaut le coup quand même de rencontrer des journalistes au moment de la sortie de ses films. Mais il ne le fait qu'à l'occasion de la sortie d'un film, quoi. Et c'est en plus, c'est une sélection de journalistes triés sur le volet, et c'est très particulier. Enfin, ne va pas interviewer Kubrick qui veut, quoi. Et en plus, ça se passe toujours en Angleterre, il vient jamais ici. Donc les types vont là-bas, et je crois qu'ils sont interviewés, même au studio, c'est rare qu'ils aillent chez lui, quoi. Et ça, c'est vrai que ça lui confère un statut unique comme ça de démiurge qui est extrêmement envié par beaucoup de cinéastes américains, quoi. Et sans parler des Français, hein, puisque c'est même inabordable pour les Français une position pareille. Mais d'amener le président de la Warner, Terry Semel, à Londres pour lire le scénario d'un nouveau film dans une pièce enfermée comme ça et carrément rendre le scénario à la fin de la lecture, je pense pas qu'il y ait même Steven Spielberg soit capable d'arriver à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il est arrivé à ce qu'on construire un mythe, comme Orson Welles pouvait avoir un mythe dans un autre, pouvait s'être construit un mythe dans un autre style, mais c'est probablement une des dernières grandes légendes ou un des derniers albatros comme ça du cinéma américain. Je pense pas que les nouveaux cinéastes de l'école Spielberg et même après plus tard de Tarantino, des frères Cohen ou il y a peut-être David Lynch qui a peut-être un côté comme ça aussi trouble, mais lui c'est un personnage, quoi, en plus d'être un cinéaste. C'est le contraire de Roman Polanski, c'est-à-dire c'est Roman Polanski est au contraire un type qui a été un grand cinéaste et qui en même temps était très qui sortait en boîte de nuit. Donc ça c'est vraiment le contraire de Kubrick, ça. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont très copains tous les deux, quoi. J'avais rencontré Polanski une fois, qui m'avait raconté qu'il se téléphonait très souvent, quoi, que Polanski avait découvert Easy Rider pour la première fois chez Kubrick, parce que Kubrick a une salle de projection, et donc il se fait venir des films chez lui, Et en même temps, il a des contacts avec des metteurs en scène, mais qui viennent en Angleterre. Il a rencontré Spielberg plusieurs fois quand Spielberg venait à Londres tourner Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Même chose pour Brian De Palma ou pour George Lucas. Quoi. Et bizarrement, il entretient aussi des correspondances téléphoniques, c'est-à-dire des conversations téléphoniques qui durent des heures avec des gens qu'il n'a jamais rencontrés, enfin des cinéastes. Hein, quoi. Peter Weir, par exemple, cinéaste australien, a eu une correspondance très suivie avec Kubrick. Il demande des conseils pour des comédiens. En France, c'est avec Bertrand Tavernier que ça se passe, quoi, ou avec Michel Deville qui a fait le doublage de ses films, quoi, en français. C'est Michel Deville qui a doublé Shining, qui a doublé Full Metal Jacket. Et c'est amusant parce qu'il s'occupe aussi du doublage des films, quoi, ce qui est très rare pour les cinéastes américains, puisqu'en général, ils ne comprennent pas le français, lui non plus. Mais il demande à un metteur en scène français de faire des essais de voix avec des comédiens, et c'est lui qui étudie les voix et qui, à leur sonorité, décide si oui ou non ça convient pour son film. Certains cinéastes pour qui c'est évident, ça a été une influence déterminante, comme Hitchcock a pu être une influence pour des cinéastes peut-être des années 60, ou comme Fellini a pu en être une autre. C'est-à-dire que toute l'école du cinéma des années 70 américaine, enfin des gens justement sortis des écoles de cinéma comme George Lucas, comme Brian De Palma, peut-être moins Martin Scorsese, mais Coppola et surtout Cimino, sont des gens qui ont été marqués en général par Stanley Kubrick et par David Lean, curieusement. C'est-à-dire c'est les deux cinéastes cultes de cette génération. Laurence d'Arabie et 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est des films qui sont mais vraiment très importants pour eux. Et Coppola, par exemple, on peut voir même Apocalypse Now comme un film complètement kubrickien, c'est-à-dire c'est 2001, l'Odyssée de l'espace au Vietnam. C'est un type qu'on charge d'une mission, il remonte le fleuve, c'est comme le type sur son astronef à travers les galaxies, sur son bateau, et finalement il rencontre son double dans un espace clos et symbolique, le temple, c'est-à-dire Marlon Brando. D'ailleurs, même Marlon Brando qui sort de l'ombre, le premier plan d'Apocalypse Now, où on voit Marlon Brando, on pense au fœtus astral qui apparaît dans la nuit de 2001. C'est vraiment cette surface comme ça qui chauve, ce crâne chauve, ça fait vraiment penser à ça. Et la charge des Valkyries de Apocalypse Now, qui est la scène la plus célèbre du film, c'est-à-dire ce type qui s'excite avec de la musique classique, on ne peut pas ne pas penser au personnage d'Orange Mécanique qui se jouait Beethoven pour à chaque fois qu'il devait se bagarrer avec quelqu'un. Et on ne peut pas ne pas penser non plus aux astronefs de 2001 qui volaient sur des musiques de Strauss, quoi. Et donc c'est fondamentalement un film qui a été influencé par Kubrick, et le personnage de Robert Duvall dans Apocalypse Now, donc le colonel Kilgore qui a son chapeau de cavalerie, fait penser à Slim Pickens dans Docteur Follamour, qui avec son chapeau se mettait sur la bombe atomique et carrément faisait un rodéo dessus, quoi. Donc c'est en ça qu'ils sont très proches. Et Cimino, c'est aussi quelqu'un qui est très proche de Kubrick, même jusqu'au choix des techniciens. C'est-à-dire, il a pris le même assistant réalisateur, il a pris le même directeur de la photographie. Et même si les films sont très différents, on peut même dire que Kubrick a une fixation sur, par exemple, le XVIIIe siècle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il pense être la matrice de notre civilisation actuelle. Et c'est pas pour rien si le héros de 2001 se retrouve à la fin dans une chambre 18e. C'est parce qu'en gros, c'est une époque privilégiée par la mémoire et qui est en fait le moment où tout a commencé, puisque cette chambre est en gros une matrice, puisque c'est là que va se produire cette naissance d'un nouvel être. Et pareil pour Shining, où ce labyrinthe de haies à la fin, c'est quelque chose qui est typique des jardins du XVIIIe siècle aussi. Et par contre, Cimino, lui, c'est plutôt la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire, il se branche plutôt sur la période, ce qu'il a traité donc dans Heaven's Gate, qui se rapproche de Barry Lyndon par le côté somptueuse et dérisoire épopée, c'est-à-dire de anti-héros comme ça dans un grand film. Et il se rapproche de Kubrick par cette volonté d'avoir une époque fétiche comme ça, vers laquelle tout ramène. Cette espèce de matrice des États-Unis dans le cas de Cimino, puisque lui, c'est toujours sur un pays en particulier qui fait ses films. Mais il y a beaucoup de points communs, quoi. Et même Cimino, que j'ai rencontré, reconnaît tout à fait qu'il a été fortement influencé par Kubrick, quoi.
Thank you.
Est-ce que l'on pourrait appliquer à Kubrick cette citation que vous reprenez dans votre ouvrage, Michel Simon, sur le désespoir de son imagination qui a dépassé la négativité de son temps? C'est une phrase d'Adorno appliquée à Alban Berg. Est-ce que vous trouvez que Stanley Kubrick justifie entièrement cette forme de désespoir?
Je pense que vous savez, on disait qu'est-ce que l'on peut écrire, c'est je crois Adorno, après Auschwitz. Eh bien, justement, l'horreur du XXe siècle. Je dis pas que je le prends à mon compte. Je peux aimer des artistes qui offrent une vision moins noire de l'existence, mais je trouve que notre siècle n'a pas de quoi être particulièrement fier. Et qu'elle reproche à Kubrick d'être pessimiste à ce point est assez infondée, parce qu'on peut très bien, il suffit de regarder autour de soi dans le monde d'aujourd'hui, la montée des fanatismes, l'intolérance, etc., pour voir que si un artiste a décidé de montrer cela dans ses films, il n'est pas sans fondement, son jugement n'est pas sans fondement. Je pense aussi que ce qu'il y a chez Kubrick, il y a tout de même aussi de l'humour. C'est d'une vision, tout de même, il y a une culture juive très très importante chez Kubrick. Il y a tout de même un désespoir, il y a le fait que ce soit un exilé, c'est aussi un homme déplacé, qui n'habite au fond nulle part, parce qu'il habite à 60 km de Londres, mais en fait, c'est un errant fixe, si j'ose dire, mais c'est un errant. Et il y a aussi l'humour pour supporter ce malheur, parce que c'est tout de même aussi une œuvre drôle. C'est pas ce qui domine, mais même, bon, ne parlons pas évidemment de Orange Mécanique, qui est un film drôle, dans Lolita, enfin drôle et terrifiant, mais également drôle. Docteur Folamour, drôle et terrifiant également. Lolita est un film plein d'humour. Et il y a même de l'humour dans Shining. La façon dont Jack Nicholson parle avec Shelley Duvall, c'est à la fois, évidemment, ça vous glace le sang, parce qu'il y a une sorte de cruauté, de folie qui monte, mais en même temps, il y a aussi un côté très, très, très. Il y a un humour noir très fort. Donc je crois que l'humour n'est jamais absent des films de Kubrick. Je veux dire, dans 2001, quand il est sur la Lune, etc., et puis qu'il communique avec sa petite fille, qui lui dit comment ça va, alors t'as pris ton bain ce soir, etc. Ou les toilettes dans le vaisseau spatial, etc., qui ne respecte pas l'équilibre terrestre. Enfin, il y a des tas de plaisanteries qui sont incontestablement d'un grand humoriste. Toute l'œuvre de Kubrick est une réflexion sur la mort, et donc la seule réponse à la mort, qu'est-ce que c'est? C'est les enfants et les œuvres d'art, ce que l'on crée, d'une certaine façon. Et je crois que pour Kubrick, c'est une façon de conjurer. Et la croyance dans l'art, la croyance dans l'activité intellectuelle, c'est aussi quelque chose qui est profond dans la culture juive. C'est une notion fondamentale. Je crois qu'il y a de chez lui, il aurait pu être à Prague, au XVIIe siècle, et chercher la transformation du plomb en or. Il aurait pu être un alchimiste. Il y a de l'alchimiste chez lui.
Mardi du cinéma, Stanley Kubrick. Avec Michel Simon, critique de cinéma, directeur de Positif, auteur de plusieurs ouvrages sur Stanley Kubrick. Laurent Vachaud, scénariste et critique à Positif. Et Jean-Marc Bouineau, auteur d'un Kubrick paru aux éditions Spart Orange. Mixage, Pascal Bénard. Une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Josette Collin. Stand by natural.
émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 juin 1997. Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick, allait sortir 2 années plus tard, quelques mois après la mort de Stanley Kubrick. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.